Il est 8h.
C'est un choc d'apprendre que son téléphone a pu être espionné de la sorte. C'est pourquoi, d'ailleurs, je demande des explications.
La classe politique secouée. Le téléphone d'Emmanuel Macron et d'anciens ministres fait partie des cibles potentielles du logiciel espion Pegasus. On vous donne les coulisses dans ce journal. Comment le chef d'État a vécu cette journée de révélation? Et on passera également de l'autre côté de la barrière. Qui est cette société NSO qui espionne pour les autres et à quelle fin? Le pass sanitaire entre en vigueur ce matin pour le cinéma ou le musée. Les grandes salles de sport sont également concernées, nous y rendons dans un instant. Et puis notre conseil lecture pour la plage, recommandation façon polar à la fin de ce journal. Juste après ce journal, il est l'une des victimes de tout premier plan de ce scandale d'espionnage au plus haut sommet de l'État. L'ancien patron du renseignement intérieur Bernard Squarcini sur la liste des numéros ciblés par Pegasus. Il l'a découvert ces tout derniers jours et il vient témoigner ce matin, c'est en exclusivité sur Europe 1. Rendez-vous 8h15, très bon réveil.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Le journal de 8h. Bonjour Lénaïque Monnier.
Bonjour Théo, bonjour à tous.
L'affaire prend donc des allures de scandale d'État. Emmanuel Macron et plusieurs membres du gouvernement auraient été victimes de tentatives d'écoute via le logiciel Pegasus.
Et on verra dans un instant avec Louis Dragnel justement comment la nouvelle a été perçue par le chef de l'État. Mais avant cela, la réaction d'une des personnalités politiques dont le téléphone a été espionné. C'est François de Rugy. À l'époque, il était ministre de l'écologie.
C'est un choc d'apprendre que son téléphone a pu être espionné de la sorte, que peut-être l'ensemble des données, des conversations privées ont pu être aspirées, comme on dit, ont pu être captées de façon sauvage dans le cadre de l'utilisation d'un logiciel espion. Je n'apprends pas évidemment le fait qu'il y ait de l'espionnage, mais il y a des règles entre États à respecter et par ailleurs entre pays amis.
François de Rugy avec Claudia Bertrand pour Europe 1. Alors tout cela pose beaucoup de questions, notamment sur le rôle d'Israël, du groupe NSO, de ses alliés. On verra ça avec Jean-Sébastien Soldaini dans une poignée de secondes. Mais avant cela, je me tourne vers vous, Louis Dragnel, bonjour.
Bonjour Lénaïque, bonjour à tous.
Alors on a entendu il y a un instant la stupéfaction, la colère aussi de François de Rugy. On imagine également l'embarras au sommet de l'État. Ça fait plusieurs jours que l'entourage du président de la République sait que cette bombe va sortir. Et vous nous révélez ce matin sur Europe 1 que deux acteurs ont joué un rôle essentiel en toute discrétion en lien direct avec Emmanuel Macron.
Oui, absolument. Il y a d'abord le coordonnateur national du renseignement, Laurent Nunez, qui est aussi l'ancien patron du renseignement intérieur, le service spécialisé dans le contre-espionnage. Son rôle depuis plusieurs jours, mobiliser les services de renseignement de ce qu'on appelle le premier cercle pour identifier les pays qui pourraient avoir acheté ces données, le nombre de personnes ciblées et enfin et surtout quelles pourraient être les conséquences de la possible divulgation du contenu des téléphones de ces hautes personnalités. Ensuite, le deuxième acteur majeur, le SGDSN, le secrétaire général de la Défense et de la Sécurité Nationale, Stéphane Bouillon, un préfet très expérimenté. Sa mission, protéger l'État contre tout type d'attaque, mais aussi, et c'est très important, la protection du secret défense. Alors, la journée d'hier n'a pas été simple pour les ministres, entre ceux inquiets de savoir s'ils sont ciblés et ceux qui ne comprennent pas bien qu'il s'agit, si les faits sont confirmés, de la plus grande affaire d'espionnage des dernières années. Et donc, face aux risques politiques, juste après le Conseil de défense d'hier autour du président, l'Élysée a donné une consigne à presque tous les ministres, la consigne de ne pas s'exprimer dans les médias jusqu'à jeudi, le temps de faire avancer les investigations des services spécialisés.
Merci Louis Dragnel, chef du service politique d'Europe 1. Alors on le disait, la classe politique est secouée, se pose la question de la protection des données de nos dirigeants. L'Élysée assure que toute la lumière sera faite.
Et on passe à présent de l'autre côté de la barrière, côté espion avec vous Jean-Sébastien Soldaini. Derrière ce logiciel, il y a donc la société israélienne NSO.
NSO, ce sont trois initiales, celles des prénoms des fondateurs. Pas forcément des génies du renseignement, plutôt des petits malins de l'informatique, mais qui, avec le temps, ont su très bien recruter. Lorsqu'un service de renseignement occidental leur laisse entendre que leur travail peut intéresser des espions, ils recrutent quelques hackers. Peu à peu, ce sont des huiles de l'appareil sécuritaire qui les rejoignent et le lien se fait très vite avec l'unité 8-200. Ça ne vous dit peut-être rien, mais dans le milieu du renseignement, c'est une signature, celle des pirates informatiques au service de l'armée israélienne, parmi les plus efficaces au monde, capable de rivaliser avec les Russes et les Américains. Cette unité 8-200 est à seulement 3 km des locaux de NSO. Leurs personnels sont étroitement imbriqués. Certains salariés de NSO sont réservistes et ce sont eux qui vont renforcer l'unité 8-200 quand l'armée a besoin de bras.
Jean-Sébastien, avec cette montée en puissance, NSO se place comme comme un acteur de la diplomatie israélienne.
Les clients de NSO, ceux qui ont acheté Pegasus, sont tous des alliés d'Israël. L'Inde et le Mexique, qui ont des relations étroites ou leur achètent des armes. Les Émirats, Bahreïn et le Maroc, donc des États arabes qui ont récemment signé un accord de normalisation avec Israël. Nous sommes dans de l'influence pure. Les Israéliens placent leurs billes un peu partout. C'est bon pour leur image dans ces pays. C'est bon aussi pour leur industrie du renseignement. Il est très probable que NSO et donc les services secrets israéliens ont accès aux données récupérées partout dans le monde par Pegasus. Si c'est le cas, ce qui a été glané sur le téléphone d'Emmanuel Macron par le Maroc pourrait être utilisé par Tel Aviv pour avoir un coup d'avance dans cette discussion avec
Merci
Paris.
Jean-Sébastien Soldaini, grand reporter pour la rédaction d'Europe 1.
Et ne manquez pas dans 10 minutes juste après ce journal l'interview témoignage aujourd'hui d'une des autres victimes de premier plan de cette tentative de piratage, l'ancien chef du renseignement intérieur Bernard Squarcini, mon invité politique à 8h15. Pour l'heure, il est 8h06 et l'autre grand titre de l'actualité à la une ce matin, c'est donc l'entrée en vigueur aujourd'hui du pass sanitaire.
Oui, pour aller au cinéma, au théâtre, au musée, un QR code validé et vous pouvez entrer, plus de masques obligatoires à l'intérieur dans ces cas-là. Les salles de sport, les grandes, sont également concernées. Bonjour Zoé Pallier.
Bonjour.
Vous êtes dans le 15e arrondissement de Paris, entouré par des sportifs plutôt lève-tôt. Tout est en place dans cette salle.
Oui, c'est ça. Double contrôle à l'entrée ce matin. Jusqu'ici, il suffisait de badger avec sa carte d'abonné pour accéder au tapis de course, au vélo et au rameur. Désormais, il faut donc aussi présenter un QR code valide, mais pour l'instant, c'est assez fluide.
Du coup, je vais juste vous demander votre passe sanitaire, s'il vous plaît.
Ouais, le voici.
On prend notre tablette et on vient scanner dessus, hop, comme ceci. Et c'est tout bon, vous pouvez y aller, Thaïs.
Merci beaucoup.
Certains doivent quand même fouiller un peu dans leur smartphone pour retrouver leur passe sanitaire. Mais ça vaut le coup pour Katia et Anaïs, pas prêtes à renoncer à leur séance de cardio ce matin.
Je ne suis pas du tout choquée en fait, par les mesures sanitaires qui sont mises en place. Pour moi, c'était naturel de venir, puisque j'ai toujours fait du sport. Et pour moi, c'est encore deux fois plus important de continuer à en faire en cette période, puisque ça me permet de me vider la tête.
J'avais plus en tête la date à laquelle il aurait fallu présenter son QR code. Mais donc, il s'avère que j'étais en règle ce matin, donc très bien. Et je ne le considère pas comme une contrainte.
Et parmi les courageux qui vont faire du sport de bon matin, il y avait quand même quelques étourdis qui étaient venus sans passe sanitaire. Donc pour eux, retour à la maison, pas de séance ce matin. Pourtant, ils avaient tous été prévenus depuis vendredi, explique Daniel Halifax, c'est le directeur de la salle.
On a eu pas mal de questions pour l'instant. On n'a pas réellement de demande de résiliation. Par contre, on a eu beaucoup de demandes de suspension pour le mois d'août, voire mi-septembre, le temps qu'ils arrivent justement à avoir leur passe vaccinale et être avant un passe sanitaire tout le temps valide finalement.
Voilà, et puis autre nouveauté aujourd'hui, les sportifs munis d'un pass sanitaire peuvent désormais enlever le masque à l'intérieur de la salle.
Merci Zoé Pallier en direct d'une salle de sport ce matin pour Europe 1. Pass sanitaire qui ne concernera pas dans un premier temps les 12-17 ans. Les députés ont voté hier en faveur d'un report fin septembre. Et puis c'est une information Europe 1. Un jeune de 16 ans a été interpellé hier soir dans l'affaire du centre de vaccination saboté à Audincourt dans le Doubs. Le jeune homme a été placé en garde à vue, il a été interpellé alors qu'il revenait sur les lieux. Il est déjà connu des services de police.
On revient sur le pass sanitaire qui va donc faire partie de notre quotidien, sachant qu'il reste toujours, les Naïk Monnier, une alternative pour ceux qui n'auraient pas encore l'heure de dose, c'est de continuer à se faire tester.
Oui, mais on se demande s'il y en aura assez justement pour tout le monde, en particulier dans les zones très touristiques. Le cas, c'est notamment le cas sur les villes du littoral qui attirent énormément de touristes pendant l'été. Johanna Chabas.
Le problème n'est pas une pénurie de tests, mais un manque de main-d'œuvre. Jean-Jacques Lebian dirige une pharmacie à Guy Pavas sur la côte brestoise. Son officine réalise déjà un test toutes les 5 minutes. Il a peur de ne pas tenir la cadence avec l'extension du pass sanitaire.
On est sur des zones touristiques où les officines de pharmacie ont déjà recruté tout le personnel disponible sur le secteur. En fait, il n'y a personne aujourd'hui de disponible pour venir travailler en plus.
Pour essayer de soulager les pharmacies de sa ville, le maire a inauguré un centre de test à l'aéroport de Guy Pavas au début de l'été. C'est ce genre d'initiative qu'encourage Gilles Bonnefond, président de l'Union des syndicats de pharmaciens d'officine. Il appelle les agences régionales de santé à s'organiser pour gérer l'afflux de touristes.
Dans les gares, dans les zones de vacances, il faut absolument que début août, les ARS mettent des barnums en place. Ils recrutent à la fois des étudiants et des professionnels de santé pour pouvoir absorber une partie de l'activité, parce que sinon on n'y arrivera pas.
Il demande aussi aux Français de ne surtout pas arriver à l'improviste dans une pharmacie pour un test, mais de prendre rendez-vous. Rendez-vous pour que les équipes puissent s'organiser.
Les précisions de Johanna Chabas pour Europe 1.
Et à la plage, à Guipava ou ailleurs, en tout cas, nul besoin de passe, de masque ni de test.
Et entre deux séances de trompette, rien ne vaut un beau bouquin. On se plonge ce matin dans un polar. Les Dames de Marlowe enquêtent. C'est ce qu'on appelle un cozy crime, un roman à la Agatha Christie. Un cadavre, une enquête, mais pas de sang, pas de violence. Et souvent une vieille dame. C'est parfait pour les vacances, Nicolas Caro.
Mort compte triple, c'est le sous-titre du roman qui sonne comme un bon vieil Hercule Poirot, sauf que ce n'est pas signé Agatha Christie, mais Robert Sorogood, britannique lui aussi. Nous sommes à Marlowe, un village en Angleterre traversé par la Tamise. D'ailleurs, il y a un plan du village au début du livre pour s'y retrouver, c'est très pratique. Trois personnages principaux, trois enquêtrices en fait. Il y a Judith Potts, une vieille dame un peu excentrique, amateur de bon whisky et cruciverbiste. Sa passion des mots croisés jouera d'ailleurs sans doute un rôle dans l'enquête. Il y a Bex Starling, toujours impeccable, la quarantaine, genre Brivante de Camp dans Desperate Housewives, pour ceux qui connaissent. Et puis Suzy Harris, promeneuse de chiens qui a du flair. Les trois amis enquêtent sur un meurtre, évidemment. Un soir en été, on entend un coup de feu et un cri et on retrouve un voisin de Judith Potts mort dans la Tamise. La police traîne un peu, alors Judith, Bex et Suzy décident de prendre les choses en main avec nous, lecteurs. Il y a même quelques grilles de mots croisés à résoudre pour aider les Dames de Marlowe.
Dame de Marlowe, enquête aux éditions de La Martinière. Donc, on ne dirait pas comme ça les Naïk Monnier, mais les Jeux Olympiques de Tokyo ont débuté.
Oui, avant même la cérémonie d'ouverture avec un match de softball, c'est du baseball féminin. Écoutez l'ambiance dans le stade.
Il n'y a pas d'ambiance, il n'y a pas de public.
Exactement, c'est là que je voulais vous amener. Il n'y a pas de public en ce moment puisque les Jeux Olympiques se déroulent à Tokyo. Le seul moment où il y a eu un petit peu d'animation, c'est quand un ours s'est invité aux abords du terrain. L'animal d'ailleurs est toujours recherché, c'est sérieux. Et puisqu'on parle d'ours, Théo, je ne résiste pas à vous annoncer le carnet rose du jour. Juan, la fenelle panda du zoo de Beauval attend un nouveau petit attendu dans très peu de jours.
Merci beaucoup, c'était le journal complet de Lénaïque Monnier. Il est 8h12.